Mais tout de suite, voici venue l'heure du bullshitomètre. Il est 16h45, on est ensemble en direct. Bertrand Puif nous rejoint, Bertrand Puif pour Fidelity. Parce que chaque jour, c'est vrai, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue ou les effets de mode. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Beaucoup d'OPA là, sur les petites et moyennes valeurs depuis quelques mois, et globalement le rythme des fusions-acquisitions à l'échelle mondiale tend à réaccélérer. Alors beaucoup s'en réjouissent en estimant que les fusions-acquisitions créent de la valeur en bourse. Vous, vous n'êtes pas d'accord, vous dites même bullshit. Vous foudroyez l'idée que les fusions-acquisitions créeraient de la valeur en bourse.
Alors oui, c'est une statistique, hein. Il y a une fusion sur deux qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que déjà, elle n'atteint pas ses objectifs de synergie.
Hein. Ah oui.
Et quand on regarde même sur plus longue période, hein, sur 25 ans, il y a des études qui ont été faites entre les valeurs qui ont plutôt tendance à faire beaucoup d'acquisitions et celles qui ont plutôt tendance à en faire peu, bien la performance est la même. Donc en fait, ça n'apporte pas sur le long terme un panier, hein, encore une fois, de valeurs. Par contre, quand on sélectionne la mauvaise, là, on peut vraiment perdre beaucoup d'argent. Et on a...
Incroyable. Non, mais vous démarrez très fort. 50% des fusions-acquisitions, la moitié ne crée pas de valeur.
Tout à fait.
Un peu comme les mariages, hein. Ça se solde sur des divorces, hein. Un sur deux. Hein.
Non, mais la comparaison est intéressante.
C'est intéressante. Bon, ouais. Mais après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu des cas d'école, hein, bon, alors c'est vrai que ça fait longtemps, mais Carrefour Promodès, Lafarge Blue Circle, et plus près de nous, Daimler Chrysler, ça n'a pas marché. Ou Ericsson, Vonage, qui était une des plus grosses acquisitions dans le domaine de la tech. Hein. Ericsson avait racheté donc en 2022 pour 6 milliards une société dans le cloud. Hein. Quand on dit cloud, on est en multiple de chiffre d'affaires, on n'est plus en multiple de profit. Mmh. Et ben 18 mois après... ils ont déprécié la moitié, 3 milliards. 3 milliards de destruction de valeur sur une capitalisation boursière de 25. Et plus proche de nous, hein, Génico et Worldline. Hein, donc ça, tout le monde connaît un petit peu la problématique. Hein, fusion à quasiment 9 milliards d'euros en 2020, et qui a été vendue deux ans après. Donc la partie Génico à 2,3 milliards à Apollo. Donc là, c'est quand même 6 milliards de moins. Et puis Siemens Gamesa aussi, hein, 25 milliards en 2020, qui aujourd'hui valent 13 milliards.
Donc, 50% des fusions acquisitions ne créent pas de valeur. Pourquoi autant d'échecs? Pourquoi un taux d'échec si élevé?
Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un biais un peu euphorique, où en fait, ces fusions, ces acquisitions, elles se déroulent plutôt en haut de cycle. Au cycle économique, au cycle boursier. Ouais. Et c'est là où, en général, ces sociétés ont accès à des financements. Donc, ça ne se fait pas au meilleur moment en termes de valorisation. Plutôt même au plus mauvais moment.
C'est pour ça que souvent, quand on interroge les experts, en leur disant « Ah, les fusions-acquisitions accélèrent », ils nous disent « Oui, c'est peut-être le signe qu'on est au haut de cycle ».
Voilà, tout à fait. Ouais. L'autre élément, c'est un peu le biais qu'on appelle, en anglais, « empire builder ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dirigeants de sociétés qui veulent grossir. Et souvent, d'ailleurs, ils sont payés à la taille, hein, parce que, évidemment, ils seront rémunérés plus en tant que PDG d'une société deux fois plus grande qu'une société deux fois moins grande. Ouais. Donc, il y a ce biais-là. Il y a évidemment les banquiers d'affaires qui proposent des dossiers, et eux, ils sont pas du tout incentivé sur la création de valeur, hein. C'est plutôt sur la taille, là encore une fois, du deal.
Et il y a aussi des opérations qui financièrement sont rationnelles, dont le timing est bon, mais qui échouent parce que, tout simplement, fusion-acquisition, il faut que les gens s'aiment bien. Est-ce que parfois ça marche pas? Il n'y a pas de création de valeur juste parce que les gens ne s'aiment pas.
Voilà, on peut penser, choc culturel, Daimler, Chrysler. Vu que le choc entre des Européens, des Allemands et puis donc les Américains, donc dans le domaine donc automobile, a été très compliqué et s'est soldé par un divorce qui a été assez destructeur de valeur pour les actionnaires. À l'inverse, il y a quand même effectivement donc un point positif. Hein, il y a des business models, des sociétés qui sont cotées en bourse dont le business est justement donc une partie importante et de faire des acquisitions, mais c'est plutôt les sociétés qui font des acquisitions de taille moyenne. Par exemple, Bureau Veritas fait de manière très régulière des acquisitions de taille moyenne ou des petites acquisitions, et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Si on en surpaye une, parce qu'on est au pic du cycle, on en continuera à en faire quand on est en bas de cycle, donc en moyenne. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus... téléperformance aussi, en dehors de la problématique sur l'intelligence artificielle.
Oui.
Avait ce business model-là pendant 20 ans.
Hein. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de fatalité. Il existe un mode d'emploi pour qu'une fusion-acquisition crée de la valeur. Qu'on peut donner comme ça, proposer à ceux qui nous suivent et qui nous demandent régulièrement, en tant qu'investisseurs particuliers, comment profiter de la création de valeur liée aux fusions-acquisitions? Est-ce qu'on peut leur apporter justement une forme de mode d'emploi pour parvenir à repérer, détecter celles qui créeront de la valeur et bien les aider à distinguer ces fusions-acquisitions-là des autres?
L'élément fondamental, c'est évidemment la valorisation. Et il faut prendre la valorisation. Alors évidemment, les multiples qui sont payés, qu'on compare à ceux de la société qui achète. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes valorisé à 10 fois et que vous achetez une société à 15 fois, bon, déjà, attention, warning. Donc à partir de là, on va aller regarder les synergies. Donc si les synergies permettent de justifier donc un multiple plus faible que le 15 fois, hein, puisque ça vient en négatif de ça, vous regardez à peu près à combien vous tombez, et l'idée c'est vraiment de comparer par rapport à son propre multiple. Si avec les synergies vous descendez en dessous de votre multiple, l'opération elle va créer de la valeur. Si effectivement, encore une fois, ces synergies sont délivrées, hein, là encore il faut qu'elles le soient, hein, dans 50% des cas elles ne le sont pas. Mm-hmm. Mais si même après un retraitement des synergies vous avez un multiple qui est plus élevé que le vôtre, techniquement ça va être compliqué de créer de la valeur. Et honnêtement, au pic de cycle, on a beaucoup de cas comme ça.
Et on le voit, hein, dans les ESN, il y a beaucoup, c'est vraiment un secteur qui est phare en ce moment avec Micropole, S2I. Et alors, pas forcément dans les ESN, mais dans quel autre secteur on peut voir justement d'autres opérations de ce type?
Oui, et créant de la valeur.
Créant de la valeur, bien évidemment.
Ouais. C'est vrai qu'en général, je le disais, les sociétés de services... Les bureaux Veritas, les téléperformances, ça marche pas mal. Mmh. Il y a des sociétés de niche aussi. Dans les pays nordiques, en Suède, vous avez pas mal de sociétés qui sont cotées. Il y en a une qui fait quand même 10 milliards, personne ne connaît, qui s'appelle Lifco, qui est spécialisée dans le rachat de petites sociétés de démolition. Des sociétés, voilà, exact. Donc c'est des sociétés, vous avez 10, 15 personnes. Mais ils en rachètent des centaines par an. Dans le monde, et donc et c'est facile à intégrer, elles sont petites, il y a des synergies évidentes, rapides, en termes donc de mise à disposition d'une direction financière, voilà, d'une puissance d'achat sur le matériel, et donc cette société-là, ben, aujourd'hui, elle vaut 30 fois les profits. Et ça lui permet d'acheter ces sociétés, ces petites sociétés, à moins de 10 fois. Donc instantanément, même si vous vous trompez sur le montant des synergies, vous créez de la valeur. Mmh. Voilà. Donc il faut aller chercher des sociétés de niche, soit effectivement dans des niches industrielles, soit dans des briques technologiques, ou des sociétés de services. Là, on peut aller chercher des tailles plus importantes, comme ce que fait effectivement, encore une fois, Bureau VTS ou Téléperformance.
Bon, alors, est-ce que vous, en lisant dans votre boule de cristal, vous pourriez nous dire quelles entreprises vont réaliser des fusions-acquisitions créatrices de valeur dans les prochains mois? Est-ce que vous avez une idée déjà? Pour ceux qui nous suivent, qui nous demandent souvent des clés d'anticipation, Bertrand.
Alors, je pense qu'il faut regarder Edenred, par exemple, hein, qui est une société intéressante. Je pense que c'est un secteur qui reste très intéressant en termes de consolidation. Hein. On a un concurrent aussi qui s'est coté. L'idée, c'est vraiment de consolider, hein, puisque vous savez que toutes les sociétés, les grandes sociétés, ont des programmes de fidélisation et de leurs employés, salariés, exactement. Et donc, elles sont dans une phase plutôt de vente. Et donc, vous pouvez racheter, effectivement, le business de Total, le business d'une grande société, d'AXA, je dis n'importe quoi, hein, mais juste pour donner des idées, et les intégrer. Et donc ça, effectivement, vous avez une plateforme, vous intégrez ça sur votre plateforme, et tout de suite, ça crée de la valeur. Voilà. Et vous avez des sociétés comme Edenred qui sont vraiment au fait de ça. Ils font ça depuis 10-15 ans, donc ils savent voir ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas. Ouais. Et là, encore une fois, on parle de petits deals, hein, par rapport à eux. Mmh. On n'est pas en train de dire qu'ils vont acheter quelque chose qui fait un tiers de leur valeur.
Et quand on est actionnaire particulier, il faut se méfier des fusions-acquisitions décidées par les États. On pense à Air France et KLM, par exemple. Est-ce que ça a créé beaucoup de valeur? Je ne sais pas. Enfin, en bourse, le titre Air France-KLM est au plus bas historique, quand même. Là,
voilà,
là,
mais ça a pas
dans un contexte de reprise du trafic aérien, c'est pas
terrible. Regardez aussi Gemalto et Thales. Hein, quand Gemalto a été... voilà, il y avait des risques qu'il se fasse racheter par des étrangers. L'État a mis la pression sur Thales pour qu'il rachète Gemalto. Bah, 2 ans après, il y a eu une dépréciation d'actifs significative dans les comptes de Thales. Voilà, donc bon.
Ouais. Les fusions-acquisitions sont créatrices de valeur? Pas du tout. Bullshit, c'est ce que vous dites au marché. 50%, donc ce chiffre que vous nous proposez avec vos équipes chez Fidelity, 50% des fusions-acquisitions ne créent pas de valeur. Vous restez avec nous, Bertrand.
Avec plaisir.
La famille se poursuit. Il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble.